Bien, cette riche et subtile communication, parfois difficile à suivre quand on n'est pas familier du système de calcul extrêmement compliqué, notamment du papyrus de Mésiris, suscite de ma part un certain nombre de questions. Je les prends un peu dans le désordre, mais je pense que tu pourras y répondre aisément. Dans la loi qui a été prise par Valens à Beritus, à Beyrouth, et qui fixe le montant du pourcentage à payer sous le nom d'octawa, donc une taxe du 12,5%. Je me pose la question de savoir est-ce que ça signifie qu'au IVe siècle, la taxe qui jusqu'alors était du quart des marchandises, donc appelée la tétarté, avait été supprimée et avait été remplacée par une taxe diminuée de moitié. Donc ça, c'est ma question. Et ma question revient à poser à celle du devenir de la tétarté, jusqu'à quelle époque nous en avons des attestations, et est-ce que donc elle est remplacée par cette taxe domitien. Et question complémentaire, si c'est le cas, comment expliquer cette diminution du taux? Je ne crois guère que ça s'explique par une volonté d'abaisser les taxes douanières sur le trafic oriental. Donc, quelle est ton opinion sur ces deux questions?
Non, on peut répondre à la première. La dernière attestation de la tétarté remonte au 574. À Palmyra, il y a une tétartones, quelqu'un qui reçoit la taxe de 25%. Après ça, nous ne savons rien. Et nous avons, au IVe siècle, la octava, la taxe de 12,5%, qui frappe les marchandises qui viennent d'au-delà de l'Euphrate, de la mer Rouge. On a un octavarius à Alexandrie. Je crois qu'il y a, quand je ne sais pas le dire, mais une revisitation de l'impôt. C'est difficile d'établir quand, parce que nous n'avons pas de documentation et je ne sais pas à quelle période de l'histoire de l'Antiquité tardive rattachée, mais avant 366, je crois. Les marchandises qui viennent de l'Orient, qui sont apportées par les ambassadeurs persans, par exemple, sont frappées par l'octava, le 12,5%. Il n'y a plus question du cas de 25%. C'est difficile.
Donc, il y a bien une diminution, mais, à un moment donné, de la moitié
Oui, je crois qu'il y a une diminution, mais il faut nuancer, parce que je ne crois pas que la tétarte ait été payée en nature. Je crois qu'elle était payée en argent. Ça dépend naturellement du pourcentage de 25%, mais aussi de le prix conventionnel, du barème. Parce que si je dis que le poivre doit payer le 25%, mais sur un prix conventionnel qui est au-dessus du prix du marché, l'imposition réelle n'est pas de 25%, mais c'est beaucoup. Mais de toute façon, il y a un changement. De 25 au 12,5%.
Donc, je rebondis sur cette question, car j'avais cru comprendre, à lire l'article de Morel, que l'impôt du quart était prélevé en nature. Donc, il n'y a visiblement pas de consensus entre vous sur ce point, et qui aurait supposé que l'arabarchie se transformait en marchand, en quelque sorte, pour écouler un quart des marchandises. Mais alors, si ce n'est pas le cas, comment est-ce que tu expliques que dans le papyrus de Musiris, comme tu l'as montré, on enlève un quart des marchandises. Donc, moi, j'avais l'impression que c'était ça qui était le produit de l'impôt.
Oui, je pourrais répondre. Il y a une réponse défensive qui est à dire quelle est la raison d'être de cette évaluation, parce qu'on explique dans un pays les 25% en nature, et puis il y a le prêteur du marchand qui achète tous les cargos. Nous devons imaginer qu'il y a quelqu'un qui achète tous les cargos, 540 tonnes de poivre, plus l'ivoire, le malabatre, tout, et l'achète en bloc. Et l'évaluation, comme c'est fait l'évaluation, on détache quoi 6 kilos moins qu'une défense, et on l'évalue à un prix qui est le 2% plus haut que tout le reste. Ça n'est pas la relation, une relation de marché. Il n'est pas question de marchand et acheté qui s'accordent pour vendre et acheter une cargo de 10 millions de dettes, et il est question de peu de sester. C'est difficile d'expliquer, mais ce n'est pas très difficile d'expliquer, parce qu'on oublie que nous n'avons pas tous les du début, on raisonne sur le verso comme si c'était la première colonne. Nous n'avions une autre. Et personne ne sait qu'est-ce qu'il y avait là. Nous avons ici un espace pour une autre colonne. Mon hypothèse de travail, c'est il y a deux tétartes. On le sait. Strabon dit qu'il y a les hexagogica, hexagogica tele, de douanes pour rentrer en Égypte, et des douanes pour sortir de l'Égypte. Ici, il y a la première, le calcul de la première tétarde. Et après, les calculs de la deuxième tétarde, qui s'appliquent seulement au 75%, comme si la première tétarde avait été payé en nature. Les Portugais du VIe siècle font une chose pareille. Il y a l'impôt du quarto et vintena. Il applique d'abord le 25%. Et puis le 5%, mais pas au 100% de la cargaison, seulement au 75%. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons une valeur fiscale de 3/4 de la cargaison. Et je pense que dans la quatrième colonne, il y avait l'addition de la première, de la deuxième. Ça, c'est la raison pour que je... C'est mon hypothèse de travail, parce que je n'ai pas accepté l'idée qu'il y a une contractation si fiscale entre un marchand et sur une quantité de marchandises qui est incroyable, comme si tu allais acheter un appartement à Paris et tu disputes avec pour un euro, ce n'est pas rationnel.
Oui, effectivement, avec cette hypothèse de travail, les choses semblent un tout petit peu plus claires, mais je vois qu'il y a encore beaucoup de place pour l'interprétation. Je pense que vous continuerez tous à faire des articles sur le papyrus de Musiris. Pour rester dessus, je voudrais poser une question à propos de l'Hermapolon. Morel, il pense que le bateau ainsi nommé est un bateau fluvial. En effet, le nom du navire... rappellerait celui de personnages qui sont bien connus dans le nom Hermopolite et Antinoopoïte. Et donc, l'Hermapolon pourrait être le nom du bateau fluvial qui a descendu les marchandises de Coptos à Alexandrie et non pas du bateau qui a fait le trajet entre l'Inde et l'Égypte. Alors, quels sont les arguments contre cette thèse ? Et pour l'idée que le bateau était bien un de ces Mégistaploïa qui faisait le voyage à travers l'océan Indien. Sur le fond, c'est-à-dire sur le calcul des taxes de la cargaison et du poids, ça ne change rien, mais il est quand même intéressant d'aboutir, sinon à un consensus sur ce point, du moins à des idées claires sur les enjeux et les raisons pour lesquelles Morel y pense que c'est un bateau fluvial et toi un bateau maritime.
Non, le problème, c'est le verbe grec qui est ek pepleukoton. Le verbe ek plein signifie naviguer deux. Il pense que il dit bon, on peut prendre ces naviguer deux comme partir. Donc l'écrivain, c'est un égyptien. Il parle d'un navire qui part. Le premier éditeur, les éditeurs disaient qui c'était un navire qui partait d'Alexandrie pour aller à Rome. Morelli dit que ce navire qui part de Coptos pour aller à Alexandrie. Je ne peux pas le suivre parce que le temps du verbe, c'est parfait. Et il désigne une action accomplie. On ne peut pas traduire partie si le temps est parfait. Parce que ek pleukoton signifie qui ont accompli une navigation. Ils sont arrivés, pas partis. Ils sont arrivés, pas partis. Et on ne peut pas dire pure navigation fluviale. Je crois que ça serait le seul exemple de l'emploi de verbes ek plein pour une navigation fluviale. Kata plein, naviguer en bas. Il y a en plus de sources littéraires et aussi papyrologiques qui montrent que la navigation dans la mer Rouge, comme elle est comprise toujours avec une navigation d'aller et retour, on emploie Aceplane pour la navigation de l'Égypte à land et Ekplane pour la navigation de land en Égypte. Je crois que les marchandises qui ont navigué, qui sont arrivées, naturellement, le grand nard gangétique vient de land, le poivre vient de land. Il n'avait pas besoin de dire où, d'où ces marchandises venaient.
Oui, c'est évident que ce n'est pas du tout dans un texte technique comme celui-là, tout le monde savait de quoi il s'agissait, bien entendu. Donc nous avons bien compris les raisons pour lesquelles tu penses que c'est véritablement un navire de mer. Et de toute façon, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un navire fluvial pourrait transporter une telle quantité de poivre?
Naturellement, ça c'est nous n'avons ça, ce sont les je ne dirais pas des vrais problèmes, mais c'est vrai que nous avons très peu d'exemples de navires fluviales si grands et ils sont éloignés chronologiquement du Papyrus Munziris. Et tu as raison de rappeler que le recto du Papyrus fait correspondre le. Il y a question d'une seule navire fluvial. Je crois que ça. Aujourd'hui, on dit. Nous avons beaucoup de difficultés économiques. Et on nous dit prenez cette difficulté comme une opportunité. Prenons-le comme une opportunité pour voir un aspect de la navigation fluviale dans l'ancienne Égypte qui n'est pas attesté dans les documents que nous avons. Parce que les documents que nous avons nous parlent de transport du blé, de l'Oxyrhynchite, de la Sinoïte à Alexandrie. Et Coptos, c'est beaucoup plus loin. Je crois qu'il utilisait des navires plus grands parce que les distances étaient plus importantes, les cargaisons étaient plus grandes.
On peut aussi revenir sur la question de la diffusion ubiquiste du poivre dans l'Empire romain. Tu as rappelé combien il était attesté à Vindolanda, à Bissheim, donc sur le limès de Germanie d'un côté et sur le mur d'Adrien de l'autre. Il faut rappeler que pour la période plus tardive, pour le IVe siècle, on a un poivrier d'argent à Oxm, dans le Suffolk. Et il est évident qu'il y en avait un peu partout en Méditerranée, ce qui implique non seulement qu'il était disponible grâce à des réseaux commerciaux qui aboutissaient dans toutes les villes d'une certaine importance, et à ce propos, je voudrais citer l'exemple de Mador, en Afrique, donc qui n'est pas un port, qui est dans l'intérieur des terres, où une inscription mentionne d'un côté tus, c'est-à-dire la résine à brûler, donc l'encens, et de l'autre côté piper, c'est le CIL 8-16878. Et c'est donc une preuve supplémentaire que ce commerce conjoint des deux marchandises orientales qui passaient par la mer Rouge atteignait, pour des besoins culinaires et culturels, toutes les villes de l'Empire, même les plus éloignées des côtes, et donc et pas seulement attirées par les camps militaires. C'est ce que je veux dire. Quoi. Il y a une diffusion aussi qui est civile et qui est intéressante de ce point de vue.
Oui, non, c'est le témoignage de l'inscription de Mador, c'est tout à fait étonnant. Oui, parce que on n'est pas prêt à croire à une diffusion si capillaire de la consommation du poivre. Et ça, c'est un phénomène, je crois, anormal dans l'économie ancienne. Un commerce si large, si répandu, à la fois géographiquement et socialement. Et heureusement, c'est archéologiquement détectable. J'espère que dans les prochaines années, nous serons de plus en plus renseignés sur la diffusion Ça, c'est un cas intéressant pour évaluer l'économie ancienne, je crois.
Alors justement, ça nous permet de rebondir sur un autre problème. C'est que si la diffusion est si capillaire que l'on pense de pouvoir la détecter aujourd'hui, est-ce que vraiment 4000 tonnes, si l'on suit les chiffres modernes que tu as cités et la géographie de la production à l'époque, est-ce qu'une importation de l'ordre de 4000 tonnes aurait suffi pour un empire aussi vaste? Alors ça implique en fait plusieurs questions, cette première question, c'est-à-dire la question de l'utilisation des chiffres modernes. Attends, laisse-moi finir.
Oui.
L'utilisation des chiffres modernes pour évaluer l'ordre de grandeur du commerce dans l'Antiquité. Donc, d'une part, ça implique que, bien entendu, le trafic devait se faire à part mer, parce qu'on ne peut guère imaginer que de telles masses aient pu transiter par la terre, ça aurait été très, très difficile. Mais malgré tout, il y a une petite question subsidiaire. Est-ce qu'on a une attestation quelconque d'un trafic par terre du poivre?
Il y a attestation de plusieurs directions de l'exportation du poivre du Malabar, parce que à la fois dans l'époque ancienne et dans l'époque portugaise, il était exporté à l'est et une partie du poivre était envoyée à la côte est de l'Inde, le Coromandel, et exportée jusqu'à la Chine. Une partie à Moudziris, il y avait de navires qui venaient du nord de l'Inde. Et du nord, il était exporté au nord de l'Inde, et de là, par voie des terres jusqu'en Chine. Les Chinois ont connu les poivres de l'Inde du nord de la Chine. Il y a plusieurs phases dans le... Le périple de la mer Érythrée et les papyrus Moudziris aussi nous parlent de Moudziris, d'une exportation du poivre qui est confinée dans le, entre Moudziris et Nelkinda, qui sont les régions du commerce portugais. Mais nous savons que Cosmas de Cobreus, au VIe siècle après Jésus-Christ, nous parle de 5 emporia du poivre. Nous ne savons pas où ils sont, sauf qu'un de Mangarut, qui est probablement Mangalore, qui est beaucoup au nord. Le commerce du VIe siècle après Jésus-Christ peut être plus étendu. Les exportations visent une région peut-être plus étendue que celle du deuxième. Mais si seulement Moudziris et Nelkinda étaient les emporia de poivre, ça me semble difficile de monter à 10 000 tonnes. Je peux accepter 6 000, mais plus au-delà de ça. Et c'est difficile d'évaluer la consommation par tête, mais nous avons Thomas Mann pour l'Angleterre du XVIIe siècle. Il estime à 4 millions de livres. Bref, il semble qu'on peut calculer 30 grammes par tête. Si nous avons, je ne sais pas, nous avons besoin de 100 millions d'habitants dans l'Empire romain pour avoir 30 grammes par tête sur 3000, le même que les Portugais, 3000 tonnes. Tonnes sont beaucoup. C'est un effort très grand qui a fait les...
Donc ça veut dire que si on en reste aux chiffres comparables pour la période moderne, il suffirait d'une dizaine de bateaux du type de l'Armapolone pour approvisionner l'ensemble du monde romain. Est-ce que ça te paraît vraisemblable ?
Oui. Si les ostracas de Didymoi, quand il dit je t'ai envoyé en Matien, ça c'est très important. C'est très important. Si nous pouvions comprendre mieux ce Matien de poivre, comme il fut consommé. C'est d'une importance extraordinaire.
Oui, donc on doit donc imaginer que on a affaire avec le papyrus de Moudziris, un document tout à fait essentiel parce qu'il a une importance significative dans ce grand commerce. Aussi. On est presque un cinquième, enfin un dixième du trafic total d'une année déterminée. Quoi.
Oui, je crois que l'étude des documents portugais nous apprend beaucoup de choses pour le commerce romain. Parce qu'ils sont... ils nous permettent de combler les lacunes que nous avons. Et en comparant les manifestos portugais et le papyrus Moudziris, on comprend beaucoup de choses. Et je crois qu'il est aussi important que le manifesto du VIe siècle.
Oui, donc j'avais plusieurs questions concernant le rapport entre le chiffre global du coût du commerce oriental selon Pline et la valeur de la cargaison de l'Hermopolone, et qui évidemment suppose beaucoup d'autres débats que nous n'arriverons pas à mener aujourd'hui. Mais j'en extrais quand même quelques questions particulières. Est-ce que tu penses qu'il y a une augmentation du trafic entre l'époque de Pline, disons, et l'époque du papyrus du Mugiris? Et si c'est le cas, ou alors est-ce que tu penses qu'on avait déjà atteint un palier à l'époque de Pline? Et s'il y a une augmentation, comment expliquer qu'on voit une diminution des exportations d'or en Inde au IIe siècle, où on a l'impression qu'il y a quand même moins d'oreillis du IIe siècle que ceux du Ier siècle? Est-ce qu'une partie des marchandises exportées de l'Empire romain a cessé d'être l'or monnayé pour être remplacé par quelque chose? Tu avais évoqué le corail, par exemple, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits qui laissent peu de traces et qui auraient substitué, disons, une partie de l'or exporté? Donc il y a deux questions. Est-ce que tu crois qu'il y a un palier ou une augmentation? Et dans les deux cas, comment expliquer la baisse des exportations d'or monnayé vers l'Inde?
Donc, la baisse, il y a sans doute une baisse quand on compare les monnaies frappées avant le 50. 64 après Jésus-Christ et celle frappée après. Mais les choses ne sont pas si nettes comme elles semblent, parce que les anciennes, les monnaies avant la réforme de Néron ont continué à être exporté beaucoup après Néron. Donc la distribution des monnaies ne correspond exactement à la statistique que nous pouvons dresser d'après le trésor monétaire de l'Inde du Sud. Puis, avant la différence entre les deux époques était beaucoup plus dramatique avant la découverte du trésor de Valvali, qui est de la moitié du même temps de papyrus Mosiris, de la moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. Ce trésor a été seulement partiellement recouvrés, beaucoup de monnaies ont été fondues. Et s'il était venu tout entier, la différence était moins dramatique. Il y a peut-être une chose à souligner. Le papyrus Mosiris n'a pas de perles, n'a pas de diamants, n'a pas de pierres précieuses. Il faut être prudent quand on compare la donnée de papyrus Mosiris et la donnée de Pline, parce qu'il peut-être naïf d'opposer la donnée du papyrus Mosiris comme le vrai donnée statistique contre la perception de Pline qui serait fantasiste. Le moderniste a le même problème quand ils doivent évaluer le commerce en pierres précieuses entre l'Inde et l'Europe, tandis que le poivre ne peut pas échapper au contrôle de l'administration fiscale. C'est que nous pouvons dire que les officiers de la Tétarte ont cru que ces grands navires, tous ces marchands qui étaient revenus sans perles. Ils ont cru ça.
Mais on les a peut-être aidés à croire aussi, non ? Ben, on les a peut-être aidés à croire. Bien. Sur cette perle qui finit notre entretien, évidemment, nous n'avons pas du tout épuisé ni la richesse de cet exposé, ni la longue liste de questions que j'avais préparées et qui fera l'objet d'autres débats certainement et peut-être relancera quelques pistes de recherche sur l'ensemble de cette problématique. Nous allons donc nous séparer car il est midi et je vous rappelle que la semaine prochaine, je ferai un retour sur une problématique qui m'avait agité il y a 3 ans et qui concerne la question de l'énergie hydraulique sur laquelle nous aurons quelques nouveautés. Ça sera une espèce d'excursus qui nous ramènera un peu en Gaule. En attendant, une prolongation de nos recherches sur la mer Érythrée et sur le désert oriental d'Égypte que nous continuerons l'année prochaine. Merci.
À vous.